Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui à Crépy-en-Valois en compagnie de Dario Polzelli, qui était médecin et maintenant qui est devenu professeur de lettres. Il va nous expliquer un petit peu toute cette reconversion professionnelle qui date de quand ? Bonjour Dario.
Bonjour, bonjour Anne-Laure. Eh bien écoutez, ça fait une quinzaine d'années maintenant.
Et vous êtes prof de lettres où ?
Alors je suis prof de lettres ici à Crépy au lycée Jean Monnet.
Et comment ça se passe dans votre tête en fait de passer de médecin à professeur ?
Alors ça s'est passé.
Oui.
Puisque maintenant, ça fait, je vous dis, quasiment, ça fait plus de 15 ans que je suis prof de lettres. Il reste que je garde une petite activité médicale, puisque je travaille à la crèche de Crépy, où je vais de temps à autre voir les enfants qui sont accueillis à la crèche, en tant que le médecin référent de la crèche, si vous voulez.
Et ça vous permet de garder un pied, en fait, dans ce métier, c'est ça ?
Je garde un pied dans la médecine, tout à fait.
Bon, racontez-moi, oui, de comment on prend une décision comme ça, même si ça date de 15 ans, c'est intéressant.
Ah, oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est une décision qui remonte très très loin, qui remonte, j'ai envie de dire, à ma jeunesse, quand j'étais moi-même élève, comme mes élèves actuellement, qui ont pour l'essentiel autour de 15, 16, 17 ans. À cette époque-là, j'étais donc au lycée, et je ne savais pas très bien ce que je voulais faire de ma vie. J'étais un bon élève, donc ça marchait bien. J'avais un an et demi d'avance quand je suis arrivé au baccalauréat, ce qui n'est pas toujours un avantage parce qu'on n'est pas forcément très mûr intérieurement. Et j'étais surtout un bon petit garçon qui faisait volontiers ce qu'on lui disait de faire, mais qui n'avait pas vraiment l'habitude de prendre des décisions. Donc arrivé devant ce gouffre qui est « on a le bac, qu'est-ce qu'on fait ensuite ?» J'avais un camarade, mon meilleur copain, qui voulait faire médecine. Mes parents, qui rêvaient d'avoir un fils médecin, eux-mêmes sont des immigrés italiens qui étaient arrivés de l'Italie, un petit village du côté de Naples. Pour eux, c'était vraiment la réussite d'avoir un fils qui marche bien dans les études et qui devienne médecin. Et donc, j'ai suivi, j'ai envie de dire, la voie qui s'ouvrait.
Vous avez été influencé et par vos parents et par votre ami.
Oui, et également par un professeur, je me souviens, en classe de 3e. Comme beaucoup d'enfants, je rêvais d'être vétérinaire, évidemment. Et elle me disait, oh non, vétérinaire, vous êtes plutôt médecine, c'est occuper des humains, si on est capable, etc. Bon, influencé par tout ce monde-là, par ce discours. Je suis entré dans ces études fort intéressantes d'ailleurs, passionnantes,
compliquées, moi je veux dire,
difficiles,
pas évidentes,
mais je vous dis, du point de vue des résultats scolaires, ça marchait bien, j'étais capable, donc j'ai fait. En mûrissant, en vieillissant, je me suis rendu compte que bon, je ne me sentais pas vraiment à ma place dans ce métier. Finalement, ce qui m'intéressait davantage, c'était la culture, la pédagogie, la littérature, que je n'ai jamais laissé de côté. J'ai continué à lire beaucoup, à m'intéresser beaucoup. Mais voilà, quand on arrive au bout de 5 ans d'études, qui reste encore 2 années pour avoir son diplôme, on se dit bon, on va jusqu'au bout. Puis la vie fait que j'ai rencontré mon épouse, on s'est mariés, c'était pas question d'envisager autre chose. J'avais un métier, ben voilà.
Donc, il faut s'occuper de la famille.
Exactement, et puis c'est passionnant de fonder un foyer, de mettre au monde des enfants, d'en s'en occuper, de lancer son cabinet médical.
Vous étiez à Crépy aussi ?
J'étais à Crépy, on s'est installé à Crépy. Donc tout ça m'a mobilisé, nous a mobilisé pendant quelques années, si je puis dire. Et puis au bout d'un certain temps...
Vous êtes resté en activité combien de temps ?
20 ans, comme médecin généraliste. Et donc, simplement au bout d'une dizaine d'années, a commencé à se réveiller cette espèce de petite musique intérieure que j'avais fait taire, qui me disait que bon, c'était bien dans ce que je faisais, le métier me plaisait, mais qu'il y avait autre chose que j'avais envie de faire. Et c'était vraiment du côté de la littérature, du côté de la pédagogie, du côté de l'enseignement. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment cessé de faire de l'enseignement dans d'autres projets, j'ai envie de dire. Donc c'était quelque chose qui me travaillait vraiment beaucoup. J'en ai parlé à mon épouse, qui était un peu surprise, mais qui m'a dit, après tout, si vraiment c'est ça qui te meut, pourquoi pas ? Et puis, j'ai pris le temps de réfléchir. Il fallait changer de vie complètement. Il y avait une famille, j'étais plus tout seul. Hein. Et il a fallu quand même une dizaine d'années entre le moment où je me suis dit, tiens, Et le moment où je suis passé à l'acte,
temps, hein,
ça a pris du temps. Si j'avais été célibataire, ce serait fait très vite.
C'est une autre prise de risque, en fait, hein,
oui,
quand on a une responsabilité familiale.
Ouais. C'est une autre prise de risque. On prend pas le risque pour soi tout seul. Et puis, nous avions acheté notre maison, il fallait la payer, enfin, etc. Donc, tout ça a pris du temps, mais finalement, ce temps m'a permis vraiment de mûrir, de vérifier le projet, et puis de me préparer au concours, puisque quand même, le concours du CAPES, d'abord, puis de l'agrégation un peu plus tard.
Êtes agrégé en plus.
Je suis agrégé, oui. Donc, quand j'ai passé le CAPES, j'ai été reçu tout de suite. Toutes les structures de la société sont faites pour vous maintenir dans le lieu où vous êtes, socialement, structurellement, professionnellement. Sortir de cette niche, si je puis dire, c'est extrêmement compliqué. Il y a tout un tas de...
Il y a des obstacles, en fait, hein,
oui, enfin, des obstacles. Bon, il y a les obstacles intérieurs, les obstacles psychologiques, etc. Mais j'ai envie de dire... Par exemple, quand vous avez le concours mois de juin ou mois de juillet, vous êtes censé commencer en septembre. Mais on n'arrête pas un cabinet médical de juin à septembre. Il faut du temps. C'est un exemple parmi d'autres. J'ai utilisé une astuce, si je puis dire. On a le droit, quand on a le CAPES, d'avoir un an pour préparer l'agrégation, un an de disponibilité pour préparer l'agrégation. Moi, je n'avais pas l'intention de la préparer tout de suite. J'avais autre chose à faire. J'avais à vendre mon cabinet ou au moins à assurer le passage de relais au niveau du cabinet médical. Donc j'ai utilisé cette année de soi-disant préparation de l'agrégation pour en fait, en un an, terminer mon activité médicale et pouvoir passer le relais. Donc entre le moment où j'ai eu le CAPES et le moment où je suis devenu prof, il s'est écoulé un an. Je n'ai pas vendu mon cabinet parce que actuellement, ou enfin à l'époque en tout cas, les cabinets ne se vendaient pas. J'ai tout simplement arrêté mon activité, mais en assurant le passage avec des confrères médecins. Et puis j'ai commencé un an plus tard.
Vous avez trouvé un poste à Crépy?
Oui, j'ai commencé déjà comme professeur au collège. Il se trouve que la chance m'a souri. Moi, ce que je rêvais, c'était le lycée, évidemment, mais... Je me disais, le lycée, ça sera dans 10 ans, quoi, le temps d'accumuler suffisamment de points. Et puis le hasard, la chance, la providence a fait que mon poste a été supprimé. Donc ce qui aurait pu être une catastrophe a été en fait une chance parce que dans l'éducation nationale, quand votre poste est supprimé, vous gagnez un certain nombre de points qui vous permettent de faire un meilleur choix pour le poste suivant, si je puis dire. Or, là encore, les planètes étaient alignées, si je puis dire, parce que... Il se trouve que cette même année où j'ai perdu mon poste, un poste s'est libéré au lycée de Crépy. Et ce poste, bien sûr, il était lorgné par, je suppose, tout un tas de professeurs. Mais grâce à cette disparition de mon poste, j'avais acquis le nombre de points suffisants pour être prioritaire.
C'est génial.
Et je suis arrivé au lycée un an après. Et voilà, je suis prof au lycée depuis une quinzaine d'années maintenant.
Et l'agrégation, vous l'avez passée quand, du coup?
Quand je suis arrivé au lycée,
dans la foulée.
Un an après, j'ai commencé à préparer l'agrég et puis je l'ai passée. Une première fois, j'ai été admissible sans être admis. Et la deuxième année, l'année suivante, j'ai été admissible et admis. Voilà.
Et c'est compliqué de préparer l'agrégation en professeur de littérature?
Ben, c'est surtout que je la préparais en étant au travail. C'est-à-dire qu'il n'était pas question pour moi de m'arrêter.
C'était des grosses journées.
Ça faisait de grosses journées, exactement. Mais bon, quand on est poussé par un désir, on le trouve. Surtout, j'étais appuyé aussi par... J'ai la chance d'avoir été appuyé par mon épouse, pour qui c'était quand même une certaine révolution, mais qui m'a vraiment accompagné dans ce cheminement. Et puis par mes enfants, qui étaient aussi tout à fait partie prenante. C'était aussi une aventure pour toute la famille, en fait. Ils sont rentrés, j'ai envie de dire, avec confiance dans le projet. Puis voilà.
Une fois que vous êtes retrouvé prof, hein, comment ça s'est passé? Très bien aussi. Tout a glissé fluidement.
pas si simplement que ça.
Pas simple d'être prof, c'est ce qu'on dit, souvent ce qu'on entend.
Mon année de stage, l'année où on découvre la profession, si je puis dire, on est pour la première fois sur le terrain. J'avais une classe de quatrième en responsabilité dans un collège des environs, pas à Crépy mais pas loin. On arrive dans la salle de classe avec déjà un décalage d'une semaine parce que on travaille comme professeur, mais en même temps on a des cours à l'UFM, à l'Institut de formation à l'époque. Donc on a une semaine de formation et on arrive dans la classe. Les élèves sont déjà rentrés depuis une semaine. Ils ont pris possession des lieux, ils ont pris possession de la classe. Vous arrivez tous jeunes profs, même si j'avais moi 45 ans. Alors que les jeunes collègues qui arrivent en général ont 20 ans de moins. Et vous avez des garnements, vous avez de gentils élèves, mais vous avez aussi quelques garnements qui ont déjà pris le pouvoir dans la classe et qui vous le font sentir. Et j'avoue que les premières fois, ça a été très déstabilisant. Parce que j'avais devant moi des jeunes survoltés qui étaient manifestement chez eux, qui parlaient entre eux sans tenir compte de ma présence. Enfin, voilà.
Un public très différent de vos patients.
Ah oui, très, très différent. Et donc, il a fallu se battre avec ça. Hein. Et
se positionner aussi se pour positionner, se faire respecter.
Tout ouais. à fait. Donc, on apprend le métier là sur le tas. Et c'est vrai que ça a un côté... quelquefois un peu désillusionnant, mais en même temps, c'est aussi ce qui fait l'intérêt du métier. Moi, j'ai toujours considéré le métier non pas simplement comme de l'enseignement, mais comme de l'éducation. La pédagogie, c'est de l'enseignement, mais c'est aussi de l'éducation. Voilà, c'était un beau terrain de... de découverte, surtout qu'au bout d'un an, après m'être entre guillemets battu avec cette classe, j'emploie le terme avec des guillemets parce qu'on a vécu de très belles choses aussi. Je me souviens que j'étais revenu dans le collège où j'ai fait mon stage l'année suivante, et en traversant la cour de récré, j'ai vu des quatre coins de la cour de récréation tous mes élèves de l'année passée qui, comme une volée de moineaux, se sont agglutinés sur moi, me faisant la bise, etc.
Moi, ça veut dire que vous êtes un prof qui plaît.
Ah, je leur ai dit intérieurement, parce que je ne me serais pas permis, mais bande de petits saligots, vous m'avez fait souffrir toute l'année, et là, maintenant, vous venez me dire que vous m'aimez, que, vous avez... que je suis le meilleur du monde, etc.
Oui, il y a un truc fort qui se passe, je pense, entre prof et élève, et qui n'est pas forcément montré en classe.
Oui, oui, il y a des choses très fortes qui se passent, effectivement, qui n'apparaissent pas forcément très clairement, mais qui s'inscrivent en profondeur. Et dans les deux sens, je veux dire. C'est vrai des élèves par rapport à leur professeur, c'est vrai du professeur par rapport aux élèves.
Et vous avez encore combien d'années donc ?
Eh bien là, je vais vous dire les choses tout simplement, je vais avoir 62 ans, donc la retraite s'approche pour moi.
Alors, vous avez d'autres projets ?
Oh, j'aurai certainement des choses à faire, oui.
Ah oui, mais d'autres envies, j'imagine.
Oui, oui,
oui. Ta rôde.
Tout à fait, tout à fait. On verra pour le moment. Je continue à vivre avec plaisir ce travail de professeur, donc je ne me projette pas trop vers l'avenir. Je ne crains pas le passage à la retraite.
Et j'ai l'impression quand même, juste pour terminer, que quand on a des envies comme ça très fortes, les portes s'ouvrent. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, j'en ai fait l'expérience. Et j'avoue que c'est énigmatique. C'est mystérieux. Quelqu'un me l'avait dit, d'ailleurs, quelqu'un qui m'accompagnait dans ma démarche quand je n'étais pas encore prof, qui m'a dit quelque chose du genre, tu as un désir qui est vraiment présent et les choses vont se faire, tu verras. Les choses vont se dégager devant toi et de fait. Alors, je n'ai pas d'explication rationnelle à ce phénomène, mais j'ai l'impression qu'effectivement, des opportunités, alors est-ce qu'on les crée ? Est-ce qu'on est simplement ouvert à les saisir quand elles viennent ?
À les palper aussi, oui. Mmh.
Peut-être, mais il y a aussi des éléments qui manifestement échappent complètement à la volonté personnelle et qui pourtant se produisent. Voilà, je n'ai pas d'explication. Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas.
Voilà. Merci beaucoup, Dario.
Je vous en prie.
Summertime and the living is easy. C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais avec Dario Polzelli, qui était médecin il y a 15 ans et qui est devenu professeur de lettres. Il nous a raconté comment ça s'est déroulé pour lui, ce passage d'un métier à un autre. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.